Le cocon.
Plus tôt ou plus tard, suivant l'espèce, un jour vient où la larve se sent assez forte pour courir les périls de la métamorphose. Elle a vaillamment fait son devoir, car se bourrer la panse est le devoir d'un ver. Elle a mangé pour deux, pour elle et pour l'insecte. Maintenant, il convient de renoncer à la bombance, de se retirer du monde et de se préparer un abri tranquille pour le sommeil, semblable à celui de la mort, pendant lequel se fait la seconde naissance. 1000 méthodes sont en œuvre pour la préparation de ce gîte. Certaines larves s'enfouissent simplement dans la terre, d'autres s'y creusent des niches rondes à parois polies. Il y en a qui se façonnent un abri avec des feuilles sèches, il y en a qui savent agglutiner en boules creuses les grains de sable, le bois pourri, le terreau. Celles qui vivent dans les troncs d'arbres bouchent en arrière, avec un tampon de sueur de bois, la galerie qu'elles ont creusée. Celles qui vivent dans le blé rongent toute la partie farineuse du grain et respectent l'enveloppe, le son qui doit leur servir de berceau. D'autres, moins précautionnées, s'abritent dans quelques rides d'une écorce, d'un mur, et s'y fixent par un cordon qui les ceint par le travers du corps. De ce nombre sont les chenilles de la pierride et du macaon. Mais c'est surtout dans la confection de la cellule de soie appelée cocon que se montre la haute industrie des larves. Une chenille d'un blanc cendré, de la grosseur du petit doigt, est élevée en grand pour son cocon avec lequel se font les étoffes de soie. On l'appelle le ver à soie. Dans deux chambres bien propres sont disposées des claies de roseau sur lesquelles on met de la feuille de mûrier et les jeunes chenilles provenant des œufs éclos en domesticité. Le mûrier est un grand arbre cultivé exprès pour nourrir les chenilles. Il n'a de valeur que par ses feuilles, seule nourriture des vers à soie. On consacre à sa culture de grandes étendues, tant le travail du ver est chose précieuse. Les chenilles mangent la ration de feuilles, renouvelées fréquemment sur les claies, et changent à diverses reprises de peau à mesure qu'elles se font grandes. Leur appétit est tel que le cliquetis des mandibules ressemble au bruit d'une averse tombant par un temps calme sur le feuillage des arbres. Il est vrai que la chambrée contient des milliers et des milliers de vers. En 4 à 5 semaines, la chenille acquiert tout son développement. On dépose alors sur les claies de la ramée de bruyère où montent les vers au fur et à mesure que leur moment est venu de filer le cocon. Ils s'établissent un à un entre quelques menus rameaux et fixent, ça et là, une multitude de fils très fins, de façon à former une espèce de réseau qui les maintient suspendus et doit leur servir d'échafaudage pour le grand travail du cocon. Le fil de soie leur sort de la lèvre inférieure par un trou appelé filière. Dans le corps de la chenille, la matière à soie est un liquide très épais, visqueux, semblable à de la gomme. En s'écoulant par l'orifice de la lèvre, ce liquide s'étire en fil qui se colle au fil précédent et durcit aussitôt. La matière à soie n'est pas contenue toute faite dans la feuille du mûrier que mange le ver, pas plus que le lait n'est contenu dans l'herbe que broute la vache. La chenille la fabrique avec les matériaux fournis par l'alimentation, comme la vache fabrique le lait avec la substance du fourrage. Sans l'aide de la chenille, l'homme ne pourrait jamais retirer des feuilles du mûrier la matière de ses tissus les plus précieux. Nos admirables étoffes de soie prennent réellement naissance dans le ver, qui les bave en un fil. Revenons à la chenille suspendue au milieu de son lacis. Maintenant, elle travaille au cocon. Sa tête est dans un mouvement continuel. Elle avance, elle recule, elle monte, elle descend, elle va de droite à gauche, tout en laissant échapper de sa lèvre un menu fil qui s'enroule à distance autour de l'animal, se colle au bras déjà placé et finit par former une enveloppe continue de la grosseur d'un œuf de pigeon. L'édifice de soie est d'abord assez transparent pour permettre de voir travailler la chenille. Mais, en augmentant l'épaisseur, il dérobe bientôt au regard ce qui se passe dedans. Ce qui suit se devine sans peine. La chenille, pendant 3 à 4 mois, épaissit la paroi du cocon jusqu'à ce qu'elle ait épuisé ses provisions de liquide à soie. La voilà enfin retirée du monde, isolée, tranquille, recueillie pour la transfiguration qui va bientôt se faire. Toute sa vie, sa grande vie d'un mois, elle a travaillé en prévision de la métamorphose. Elle s'est bourrée de feuilles du mûrier, elle s'est exténuée à faire de la soie pour son cocon, mais aussi, elle va devenir papillon. Quel moment solennel pour la chenille!
Les autres chenilles font sans doute comme le ver à soie.
Beaucoup, mais pas toutes. Il y en a qui n'ont pas assez de liquide à soie pour construire un solide cocon. Alors, elles associent diverses matières au peu de soie dont elles disposent. C'est ainsi que les chenilles velues mettent à profil leurs poils, qui se détachent alors sans difficulté et les entremêlent avec les fils soyeux pour fabriquer une sorte de feutre. D'autres font entrer dans le cocon une grossière filasse formée de brins de bois. D'autres gâchent de la terre pour crépir les parois trop minces de leurs cellules. D'autres se contentent d'une fine ceinture de soie qui les fixe dans quelque abri.
Et le cocon de la zozère, comment est-il ?
Dites-moi d'abord, mon cher enfant, dans quel but est construit le cocon ?
Ce n'est pas bien difficile. La chenille se fait un cocon pour être bien tranquille chez elle et devenir papillon sans crainte d'être dérangée. Elle s'enferme afin de se transformer en paix.
C'est bien cela. Dites-moi encore si la chenille de la zozère, sans se mettre en frais de construction, n'a pas une demeure solide, une retraite paisible, elle qui vit dans l'épaisseur d'une grosse branche d'arbre.
Je le crois bien. Qui pourra la troubler là-dedans ?
Eh bien alors ?
Je comprends, la chenille ne fabrique pas de cocon.
Oui, mon ami. La bête a trop d'esprit pour faire l'inutile. La zeuzère ne fabrique pas de cocon, protégée qu'elle est par l'épaisseur du bois. Elle se contente de tamponner avec une bourde sûre l'arrière du couloir pour couper le chemin aux intrus qui pourraient venir la troubler pendant le pénible travail de la métamorphose. Une autre précaution est prise, précaution fondamentale, sans laquelle le papillon périrait misérablement, car il n'a pas les robustes mandibules de la larve, ses crocs durs qui rongent le bois, mais seulement une trompe délicate, incapable de percer la feuille la plus mince. Comment ferait-il donc s'il naissait au cœur d'une branche, dans un couloir fermé par un bout et encombré de débris à l'autre? Faute d'outils pour s'offrir un chemin, il périrait sans pouvoir apparaître au jour où il doit vivre. Que fait la chenille pour lever la future difficulté? Elle n'écoute plus sa prudence ordinaire, qui lui défendait d'attaquer l'écorce, crainte de se trahir. Elle va droit à la surface et ses derniers coups de dents ouvrent une fenêtre par où s'envolera le papillon. Cela fait, les mandibules peuvent tomber, le casque de corne peut disparaître. Ses outils sont désormais inutiles car tout est disposé en vue de l'avenir. La chenille se recule donc un peu de la fenêtre ouverte et se prépare à la transfiguration finale.
C'est admirable, oncle Paul. On dirait que la chenille prévoit l'avenir.
Elle le prévoit en effet, non péniblement comme nous et d'une manière incertaine, par une combinaison rationnelle d'idées, mais d'emblée, sans réflexion, sans aucune chance d'erreur. Les secrets pressentiments de l'instinct lui donne cette merveilleuse précision dont elle n'a pas conscience.